Courant d'air
au-delà des frontières.
Salut à tous, ici Enora et en cette nouvelle saison de Courant d'air, on reprend assez tardivement mais sûrement avec une équipe agrandie. Mais oui, Camille et Claire m'ont rejointe dans l'aventure. Je vous parle personnellement depuis le Canada où je vais avoir le plaisir de vous faire rencontrer des Canadiens mais aussi des Québécois puisque je me trouve dans la zone frontalière Québec-Ontario, donc à Ottawa-Gatineau. Camille et Claire vous ont préparé une rencontre avec Jérôme, un Français qui a passé à peu près 2 ans au Québec. Et puis, personnellement, j'ai rencontré une franco-ontarienne, Véronique, qui a visité la France. Pour commencer, je vous propose d'écouter de suite Jérôme et Camille parler de son séjour au Québec.
Je suis avec Jérôme, qui a vécu 2 ans déjà au Canada. Tu vas nous témoigner de ton expérience de ce pays. Tu vas nous parler aussi de ton expérience des villes que tu as pu visiter, donc notamment Ottawa, puis Québec et Montréal.
Ottawa, oui, puisque j'y habite. Enfin, j'y habite à 40 km, mais effectivement, c'est la ville la plus proche. J'aime la beauté de la ville, qui est beaucoup plus accessible que Montréal. Non pas que Montréal soit pas une belle ville, mais t'as énormément de... Comment dire ? Par le périph' qui est traversé par Montréal, t'as énormément de sorties. Tu sais pas trop où t'atterris, dans quel quartier. Montréal est très explosé au niveau des quartiers. Tu as le quartier Longueuil, le quartier Sherbrooke, le quartier Brossard, et ainsi de suite. Pas facilement identifiable quand tu connais pas. Okay. Étant donné que les échangeurs sont très souvent en travaux dû à l'état des routes, tu peux te planter très vite. Québec, c'est différent. Tu as 2 arrivées, tu as 2 autoroutes, la 20 ou la 40, tout dépend de quel côté du Saint-Laurent, par rapport où tu viens de Montréal. Québec est beaucoup plus joli, beaucoup plus accueillant, beaucoup plus francophone et moins cosmopolite. Tu as énormément de rues piétonnes. T'as énormément de rues où tu as des artistes de rue. Ça, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture plus québécoise. Parce que Ontario, j'en ai pas vu beaucoup. Ottawa, j'en ai pas vu beaucoup. Mais tous les étés, t'as des festivals de rue.
Préparez-vous. Hello. Last one, dernier tour de réchauffement. 1, 2, 3. OK, make some noise. I want to...
Alors t'as des magiciens, t'as des clowns, t'as des équilibristes en quelque sorte, tu as des peintres de rue, tu as vraiment de tout, c'est quelque chose, et d'ailleurs je l'ai pris en photo cet été quand on est allé à Québec, c'est bien marqué, tu as une plaque à Québec qui dit que les festivals de rue, les artistes de rue sont une place prépondérante dans la culture québécoise et que tu verras jamais les polices interdire un festival de rue, même un artiste qui va se foutre sur une place comme ça sans prévenir avec ses trucs, il va toujours avoir la place pour faire ses peintures, ses numéros ou autres, ça fait partie de leur culture. Ça c'est quand même très agréable, très appréciable. Tu te bats, tu connais pas la ville, tu vois des beaux monuments, tu vois des beaux magasins, tu vois leur habitude alimentaire, leur habitude vestimentaire, et en plus tu vois des artistes de rue. Des 3 villes, si je devais comparer, Québec est la plus jolie, la plus francophone. Ottawa, ça reste la capitale, donc forcément, t'as pas mal d'attraits qui sont supérieurs. Tout dépend en fait le tourisme que tu veux faire. Si c'est du tourisme culturel, vraiment culturel pour le pays, vaut mieux la capitale évidemment, t'apprendras plus de choses. Si tu veux un tourisme où t'as peur de pas être trop dépaysé, vaut mieux aller à Québec. Et si tu veux un tourisme où tu veux avoir un petit peu le melting pot des deux, ainsi que le mélange des cultures, c'est Montréal. Maintenant, moi, la petite ville où je suis, on est à Limoges. On est à côté de Embrun, Castleman, pour tous ceux qui connaissent éventuellement un petit peu. C'est plus rural, beaucoup plus rural. Le seul inconvénient de ce pays, c'est quand t'as pas le permis, t'es dans la merde. Parce que t'es loin de tout. Là où on habite, on est à 7 km du premier magasin, par exemple. Mais non, voilà, les grandes villes, oui, c'est il fait bon y vivre. T'es sûr de ne pas avoir trop d'ennuis avec le mauvais temps l'hiver parce que c'est des villes qui sont extrêmement déneigées rapidement. C'est en habitude chez eux. Et surtout, tu as un gros avantage, c'est que si tu veux te balader à Ottawa l'hiver, là où est ta collègue, tu as le canal Rideau, qui est une rivière à bateau, tout ce qui est plus classique. Sauf que l'hiver, elle est tellement gelée qu'elle est ouverte à partir d'un certain point. Tu peux aller patiner, faire de la luge ou marcher dessus sur les 8 km aller-retour. Enfin, 16 km aller-retour en l'occurrence. Tu peux aller marcher dessus pendant presque 3 mois parce qu'elle est gelée sur plus d'1 mètre de profondeur, donc même les véhicules de secours roulent dessus sans problème. Tout est tellement gelé l'hiver que tu peux te balader sur les canaux.
Est-ce que tu peux nous parler justement du climat du Québec et du Canada ? Comment on le vit en tant que Français avec on a un climat assez différent ?
Quand il fait froid, ça c'est clair et net. Et quand il fait chaud, c'est pareil, tu souffres de la chaleur, mais quand tu reviens ici, enfin moi je prends mon cas personnel, j'ai des laryngites à répétition à cause de l'humidité latente. Maintenant là-bas, t'as L'été, tu as vraiment l'impression que tu n'as plus aucun nuage, tu n'as plus aucune couche d'ozone, tu n'as plus rien, tu crames littéralement. L'hiver, c'est différent, c'est-à-dire que tu as le facteur vent qui est assez violent. Mais effectivement, si tu te prends le fond des vents nord-ouest, c'est très froid. À titre de comparaison, la neige, quand elle tombe, elle ne fait pas semblant. C'est-à-dire que nous, on a la neige qui dépasse la hauteur de la porte de la maison. Donc quand tu te lèves le matin, c'est très surprenant pour sortir. Oui, un beau mur de neige. Mais ça dépend, en fait, c'est des épisodes. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir, comme dans le cliché qu'on peut avoir, voilà, décembre, il neige, jusqu'à mars, il neige, et tout le temps. Non, non, c'est que tu as des épisodes pendant 3-4 jours, ça va neiger non-stop, et tu vas bien souffrir pour déneiger. Et puis pendant 4-5 jours, tu n'as pas forcément un redoux, si tu veux, mais tu n'as plus de tempête de neige, tu n'as plus de grosse neige. Donc tu as eu le temps de bien nettoyer, mais par contre, tu peux être sûr que tu en as une autre qui revient par derrière. On est tombé, nous, comme je disais tout à l'heure, à jusqu'à moins 40 avec le facteur vent, au point que tu as des points de congélation des poumons où on t'interdit de sortir. Même avec un foulard sur le nez et la bouche pour essayer d'avoir une sorte d'air chaud renouvelable, non, c'est pas la peine, tu respires pas. Je l'ai fait, je l'ai testé, je suis rentré. Si t'es pas préparé à affronter des très basses températures et surtout plusieurs longues semaines à déneiger, parce que c'est usant, mine de rien, c'est fatigant la neige, c'est lourd. Effectivement, quand t'es pas préparé, vaut mieux partir à l'été ou à l'automne pour l'été indien, entre guillemets, mais sinon l'hiver, oui, non, faut vraiment te préparer.
Est-ce que tu peux me parler des différences de société entre la France et le Canada ?
C'est une autre mentalité, c'est-à-dire que là-bas, tu peux manger de minuit à minuit. D'accord. Au niveau de la purement alimentaire, c'est pas tout à la même chose, c'est que ils ont tendance à de plus en plus cibler l'alimentation pour qu'elle soit plus équilibrée, parce que l'Amérique du Nord a un taux d'obésité qui est record. Malheureusement, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. Chez les jeunes, c'est quasiment 25%. Donc c'est assez énorme. Donc ils encouragent la meilleure alimentation. Mais en même temps, tu as énormément, mais quand je dis énormément, c'est je pèse mes mots, de fast-food. Bon, au niveau de l'alimentation, ouais, c'est très varié. Ils produisent eux-mêmes leur fromage, ils en sont très fiers. Ils produisent eux-mêmes leurs produits laitiers. Ils mangent à des heures que nous, on n'a pas l'habitude, comme je te disais. C'est-à-dire que 5h30, 6h, ils sont à table. Comme ça, ça leur permet d'aller voir les matchs de hockey à 8h dans les amphithéâtres, aller au cinéma ou aller se balader en ville. Et eux, ce que nous, on prend comme collation, ce qu'on appelle le 4h chez nous, le goûter, eux vont le prendre vers 8h30, 9h le soir, ça va être une pomme, un yaourt ou autre. Et ça va être leur collation avant de se coucher.
Donc voilà, est-ce que tu peux me parler de la vision que les Québécois et Ontariens ont sur les Français, du coup, de ton expérience à toi ?
Alors, les Français individuellement, on est bien vus. C'est-à-dire qu'un Français ou un groupe de Français qui va venir en touriste là-bas va être bien perçu. L'accent français, le côté, comme disent nos cousins québécois, le côté courageux plus ou moins des Français à toujours se rebeller quand ils ne sont pas d'accord. Par contre, si on est bien apprécié, quand on va là-bas chez eux par petits groupes individuellement, globalement, la mentalité française commence à énerver de plus en plus. À titre d'exemple, il y a l'émission de Laurent Ruquier en France, On n'est pas couché, avait comme invité il n'y a pas si longtemps Anne Dorval, une comédienne québécoise. Et Éric Zemmour s'est encore lancé dans son grand discours homophobe, anti-étranger, sexiste. Et là-bas, c'est quand tu regardes les commentaires sur la chaîne québécoise TVA Nouvelles, c'est impressionnant comme les Français, c'est très généralisé, c'est pas certains Français, eux ils généralisent, ils se prennent même plus la tête, c'est les Français sont arriérés, les Français sont ceci, ils adorent les Français quand ils viennent chez eux, mais eux sont les premiers à dire qu'ils n'iraient pas vivre en France. Beaucoup viennent en vacances, parce que ça reste un des pays les plus beaux, les plus visités, les plus touristiques. Beaucoup aiment la gastronomie française, on va pas s'en cacher, même si on mange très bien au Québec, au Canada de manière générale. Mais par contre, ouais, dans la mentalité française globalement, commence un petit peu, on a longtemps été les cousins français et on commence à être les Français tout court. Et le mot cousin commence à disparaître. Le français est relativement bien vu en tant que touriste. Ottawa, la capitale, tu t'attends pas à ça. Donc effectivement, une arrêt pause toilette dans un petit restaurant, un grand restaurant, pas aussi grand que là où on est. Et effectivement, tu t'arrêtes, donc tu demandes un café pour moi, jus d'orange pour mademoiselle, pour notre consommation. Je reviens, je m'apprête à payer. Et effectivement, la patronne qui est venue me voir en disant, moi je vous offre la consommation, comme ça, vous reviendrez. Forcément. Et on y est retourné, on a mangé là-bas un soir. Et effectivement, de deux, voilà, elle m'a dit, vous avez juste pris deux verres, vous avez juste les besoins de la toilette. J'ai pas à vous faire. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui fait que tu te dis, moi je suis parti sans a priori, mais le seul que j'avais effectivement, c'est le franc froid. Parce que tout le monde assimile le Canada au grand froid, ce qui est faux. Maintenant, oui, ça fait partie des petites surprises. Tu dis, c'est quand même beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accueillant. Même les policiers là-bas, moi je suis touriste, j'ai fait une connerie en voiture parce que la circulation n'est pas la même. C'est-à-dire un truc tout bête en Ontario, un feu rouge, tu as le droit de tourner à droite. Voilà. Toi, tu es au rouge, tu vas à gauche, tu vas tout droit, tu dois t'arrêter. Si tu tournes à droite et que tu vois que ceux qui viennent de ta gauche ne passent pas, tu as le droit de te lancer. Moi, je ne savais pas, je me suis fait klaxonner. Il y a un policier qui m'attend plus loin en disant que j'avais bouchonné. Je lui ai expliqué que je ne savais pas, que je ne connaissais pas encore toutes les réglementations. Le policier ne s'est pas borné à mettre une amende parce que j'avais gêné. Voilà, il m'a expliqué, c'est comme ça que ça marche. Il m'a donné deux ou trois autres astuces. Mais voilà, ça fait partie des petits détails, la police, le restaurant, puis d'autres petites choses qui font que tu te dis que tu n'es pas si mal dans ce pays-là.
Dans ce beau pays du Québec, ils ont d'ailleurs de bons artistes. Je vous propose d'écouter Embarque ma belle du groupe québécois K1. Je suis en compagnie de Véro qui s'est rendu en France. Véro, t'es parti quand exactement?
C'était en juin 2008.
Ok, t'as visité quoi?
Ben, on a débuté notre visite à Paris, ensuite on est allé dans la Loire, on a fait la Provence, on a fait la Bourgogne, on est allé à Collioure qui était vraiment l'endroit que j'ai préféré, et ensuite on s'est en allé vers l'Espagne.
Est-ce que ça correspondait à peu près à ce à quoi tu t'attendais ou ça a été quand même assez différent et assez surprenant?
Je dirais même que ça surpassait mes attentes. C'était pas surprenant, mais c'était C'était comme un rêve qui se réalisait. C'était aussi d'être en contact avec nos racines. Parce que, bon, bien évidemment, moi, ma famille vient de la France, mes descendants viennent de la France, et comme on est un jeune pays ici, et qu'on arrive dans un territoire qui est beaucoup plus mûr, comme l'Europe, c'est toujours très impressionnant de voir ce qui s'est passé, alors que nous, ici au Canada, on va souligner là, le 150e de la Confédération, mais c'est un jeune pays, le Canada. Donc, on a de l'histoire, certes, mais c'est beaucoup plus riche en histoire quand on est en Europe. Alors ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup plu, ça m'a pas surpris, je m'y attendais, mais ça surpassait vraiment mes attentes et j'ai été agréablement séduite.
Mais je suis ravie de l'entendre. En tout cas, est-ce que les gens avec qui tu as eu des contacts, comment dire, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble ou est-ce que là aussi, tu as eu pas mal de surprises?
Ben alors, on dit toujours que les Parisiens sont chiants. Hein? On dit toujours que les Parisiens, nous ici, les Parisiens ont une réputation de n'être pas très accueillants. Or, moi, j'ai trouvé que les gens, à l'exception de quelques personnes qui visiblement étaient agacées par les touristes en général, j'ai trouvé que l'accueil était plaisant, chaleureux. J'ai trouvé que les gens étaient gentils. J'ai trouvé que les gens voulaient nous aider la plupart du temps. Mais je dois dire que c'est sûr que c'est un peu plus froid à Paris que, par exemple, quand je suis allée en Bourgogne, alors qu'on habitait en chambre d'hôte dans une famille à Meursault, un petit village. On visitait des vignobles. C'était vraiment sympathique. Bon, c'était un peu plus chaleureux qu'à Paris. Par contre, j'ai pas trouvé que les Parisiens étaient chiants. Peut-être c'est un peu le contraire. Tu sais, quand quelqu'un nous dit, on a des attentes, on se dit, ah, ils seront impolis, ils seront chiants, ils vont pas nous aider, ils vont nous trouver ridicules avec notre accent. La seule chose que je dois dire, c'est que ce qui m'a étonnée, peut-être, c'est le fait qu'à toutes les fois que, bon, moi, je suis capable, comme vous le voyez, de parler un certain français international, c'est-à-dire que je vais m'adapter, tu sais, je vais pas parler un français joual alors que je m'adresse à un français parce que je veux qu'il comprenne ce que je dis. Mon mari ne fera pas ça. Alors lui, mon mari avait peine à se faire comprendre. Les Français lui parlaient en anglais. Et là, mon mari disait, ben, je parle français. Et là, il disait, over there. You turn right, you go left, you go over there. Et là, mon mari dit, je parle français. Et là, je dis, non, tu parles pas français, tu parles, tu sais, ton accent est tellement prononcé qu'il pense que tu es anglophone. Et mon mari trouvait ça très rigolo, mais parfois, c'était un peu frustrant.
Et ça donne quoi, un accent prononcé?
C'est-à-dire le joual? OK, ben pose-moi une question sur quelque chose que je fais au quotidien et j'essaierai de te parler en joual.
Tu commences comment ta journée?
Bon, alors, je me lève à 4 heures. Et puis, je me lève à 4 heures, je fais de la radio, donc je prépare mon émission. Des fois, moi et Mélo, on parle, on jase, on parle de toutes sortes de choses. On regarde ce qui se passe dans les journaux, dans l'actualité. Après ça, ben on. T'sais, je dirais pas ça si je parlais avec un Français. T'sais, je sais pas, là, je peux pas. T'sais, je veux bien, mais de toute façon, je suis pas une personne qui parle joual à 100% non plus. Parce que mon métier... Je suis animatrice de radio, alors j'ai pas le choix que d'avoir un français de qualité. Bien sûr, mon accent n'est pas celui que j'emprunte en ce moment. Là, c'est un petit peu plus ce que je faisais. Mais là, j'essaie que les gens me comprennent. T'sais, je veux que les gens comprennent bien, saisissent bien le message, ce que j'ai à dire. Donc.
Mais t'es quand même aussi très douée pour imiter les différents accents, et notamment l'accent français. S'il te plaît, fais-nous l'accent français.
Ah, mais non, faut pas, là. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu veux quoi, là? Alors voilà, la radio, c'est ma passion, c'est toute ma vie, quoi. J'adore la radio.
Étant ici, je commence à entendre qu'est-ce que c'est l'accent français, à l'entendre, et j'ai l'impression qu'on a un côté un peu plus coincé, un peu plus froid, un peu plus guindé, peut-être. Ça te donne pas cette impression-là quand tu entends des Français parler?
Je pense que c'est la perception. C'est un peu la même chose en anglais. Pour un Canadien anglais... Ou pour quelqu'un comme moi qui est parfaitement bilingue, mais moi, je crois pas ça. Je sais pas pourquoi les gens ont cette perception-là, mais quand ils entendent quelqu'un parler, quelqu'un qui vient d'Angleterre, par exemple, et qui a l'accent anglais d'Angleterre, cette personne-là va avoir l'impression, justement, qu'elle parle un meilleur anglais, ou elle est peut-être un peu plus snob. C'est comme la royauté.
The word describes something that is often stylish, sometimes elegant, and expensive.
C'est un peu la même chose avec les Français. On a comme l'impression que... Et encore là, moi, je m'exclus de ce groupe-là parce que je ne crois pas ça. Je pense que c'est peut-être un peu d'ignorance aussi, dans la mesure où c'est ce que vous avez comme accent, c'est le français que vous parlez. Et le contraire est aussi vrai. Les Français, parfois, vont nous corriger ou vont dire « Ah, telle chose », mais nous, c'est notre français à nous, c'est notre façon de parler. Alors, il faut se respecter, dans le fond. C'est tout ce que je crois qu'on doit faire. T'sais, dans le fond, un Anglais d'Angleterre a cet accent, a cet anglais-là. L'anglais canadien a cet anglais-là. Le Canadien français parle de plusieurs façons, parce qu'il y a quand même des franco-ontariens, des franco-manitobains qui ne parlent pas du tout de la même façon, les Québécois. Ensuite, il y a les Acadiens. Donc, il y a plusieurs francophones au Canada qui ne parlent même pas du tout le même français et n'ont pas le même accent. Un peu comme c'est le cas en France. Vous n'avez pas tous les mêmes accents. Ça dépend des régions. T'sais, par exemple, Marseille, on connaît bien le français de Marseille, où il y a vraiment ces accents très prononcés, alors que, bon, à Paris, c'est un petit peu plus uniforme. À moins de vraiment parler avec des gens qui viennent d'autres régions, les Parisiens ont quand même l'accent français, un peu la norme, si tu veux. Et puis, je trouve que, dans le fond, on doit seulement se respecter et dire, ben, c'est un accent, tout simplement. Je parle. C'est sûr que si on utilise toujours des anglicismes ou si, en même temps, on n'a pas une structure de phrase qui est correcte selon les règles de base du français, ben là, on peut quand même se corriger et s'améliorer toujours. Mais l'accent, je ne pense pas qu'on peut juger quelqu'un par son accent. Alors, j'essaie d'éviter de penser, moi, que quelqu'un a un accent qui est supérieur ou inférieur ou guindé, comme tu dis.
J'ai joué au hockey toute ma vie. Je fournis l'effort, j'ai payé le prix, j'ai mis la main dans la roue, j'ai...
Ping! Poteau! Pas de premier à qui ça arrive, déjoue tout le monde, arrive devant le goaler, le sort de ses patins, filet désert, la foule est de bout.
Je vois bien ce que tu veux dire. En tout cas, c'est sans doute assez ethnocentrique d'une certaine manière que de croire que notre accent, c'est notre accent qui est le vrai accent de je sais pas quoi. C'est comme s'il y avait un centre, il y avait une périphérie. Et à partir de ce moment-là, directement, en fait, tu mets des niveaux par rapport aux appréciations des langues. Donc, c'est clair que ça peut pas fonctionner comme ça.
Mais en même temps, c'est parce que vous êtes la mère patrie. T'sais, vous êtes l'origine, la France est notre mère patrie, en quelque sorte. C'est parce que on vient de là. En tout cas, moi, ma famille vient, les soucis viennent de la France. Et puis, la plupart des Canadiens français sont descendants français. Alors, c'est certain que pour un Français, quand ils entendent les Canadiens français parler et que le français n'est peut-être pas à la hauteur de leurs attentes, ben, ils trouvent qu'on massacre le français. Mais en même temps, j'ajouterais que les Français, on les juge beaucoup aussi parce qu'ils ajoutent souvent des noms en anglais dans leur vocabulaire, comme le shopping, le parking, ces trucs-là. Nous, on ne dit pas ça. On dit le magasinage, on dit le stationnement. Alors, on utilise des noms en français. Donc, c'est drôle comment c'est un peu paradoxal, tout ça. Dans le fond, tout ce qu'on doit faire, c'est arrêter de juger.
Pour en revenir à ton voyage, est-ce qu'il y a des choses qui, socialement, on va dire culturellement, t'ont particulièrement marqué parce qu'elles étaient faites de manière différente? Il y a des choses qui ont éveillé ta curiosité par rapport à ça?
Ben, beaucoup. Ben, d'une part, parce que moi, ce que j'aime des Français, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a plu, mais ce qui m'a aussi surpris en quelque sorte, c'est tout le côté social. T'sais, j'aime bien le fait que les Français aiment socialiser, c'est ce que je veux dire. Ils aiment beaucoup socialiser, ils prennent le temps de prendre un café ensemble. À une époque, mes parents étaient allés en France et il n'y avait pas vraiment de Starbucks. Je sais que là, maintenant, il y a des Starbucks à Paris, mais il n'y avait pas de Starbucks à Paris. Et mes parents étaient arrêtés dans un café et ils voulaient, nous, on prend souvent le café pour emporter. Et mon père avait demandé à la jeune fille, est-ce que je peux prendre le café pour emporter? Et elle lui avait fait la leçon. Elle avait dit, pour emporter, qu'est-ce que vous dites? Vous prenez 5 minutes, vous vous asseyez, vous prenez le café. Et là, mon père m'a dit, mais on veut continuer à visiter avec notre café. Ah, mais non, j'ai pas le petit verre, je peux pas. Et mon père m'a dit, merci. Et il avait pris l'espresso rapide au lieu de prendre un café, un allongé, un americano. C'est typiquement français. Ils prennent le temps de prendre le café, ils prennent le temps de s'asseoir, de relaxer. Aussi, le truc dans les villages, quand on est à Meursault ou quand on est même en Provence, dans certains coins de la Provence, ou même à Lyon, quand je suis arrêtée à Lyon, Lyon, c'est un peu plus gros, mais en périphérie de Lyon, tout est fermé entre telle heure et telle heure. Là, il y a beaucoup de trucs qui étaient fermés. On ne pouvait pas arrêter se chercher de la nourriture. À un moment donné, les enfants avaient faim. Et là, tout d'un coup, c'était fermé à partir de 14 heures jusqu'à 17 heures. Les restos étaient fermés. Il y avait des trucs comme ça. Ça m'a plu, ça aussi, parce qu'ils prennent le temps de fermer boutique pour pouvoir se régénérer. C'est comme on recharge nos batteries pour reprendre ensuite. Alors ça, c'est extraordinaire. Nous, on ne fait pas ça. Et il y a une autre chose qui m'avait frappée, c'est que peu importe l'âge, peu importe que vous soyez personne âgée, que vous soyez une femme, un homme, les gens sont très, très bien habillés. Les gens sont très fiers en France. Les gens aiment... on avait une dame de 80 avec un petit talon haut, en costume, avec des chapeaux. On voyait ça partout. Même les sans-abri étaient bien habillés. Nous, on n'a pas ça ici. Ah oui, à Paris, il y avait des sans-abri qui étaient en complet. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. Ici, les sans-abri, ils ne sont pas en complet, je peux vous l'assurer, là. Ils sont plutôt en jeans. Et je pense que, bon, c'est sûr, toute la culture de la nourriture, la culture du vin, ça, c'est sûr que c'est toujours très plaisant aussi découvrir. Tu sais, les Français aiment le vin, les Français aiment aussi les fromages, le pain. C'est pas cher. C'est une bonne bouteille de vin. Nous, ici, on paye très cher notre vin au Canada, alors que là-bas, c'est pas cher, est un bon vin, là. Souvent, les Nord-Américains, on mange à notre bureau. Ça, c'est très nord-américain, ça. Mm. L'autre chose que j'ai aimé, c'est le fait que le dimanche, tout était fermé. Hein? Nous, on ne connaît pas ça ici. La pharmacie est fermée. Il y a des restos d'ouverts. Mais en même temps, les magasins, les boutiques, les pharmacies, les épiceries, tout ça, c'est fermé. En Amérique du Nord, tout est ouvert, 24 heures par jour. Tu peux aller à la pharmacie à minuit. Alors, ça aussi, j'ai trouvé ça très, très, très spécial.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet de Radio Campus Rennes au www.radiocampusrennes.fr. On met les podcasts en ligne. Merci beaucoup à Jérôme et à Véronique, nos invités. Merci à Camille et à Claire, sans qui cette émission aurait bien du mal à continuer. Merci à Claude pour son soutien à la réalisation. Et merci aussi à DJ Bril du groupe de Festnos Plantech pour la musique de l'émission. Ce numéro sera rediffusé mardi prochain à 13h. On se quitte maintenant avec le groupe franco-ontarien Swing avec leur morceau CB Body.
Avec l'autre dans ma veine, j'arrête tes voir ma mère le long du chemin. À dire comment ça va garçon, je peux pas rester, je m'en vais chez tes gars. J'arrêterai pas que j'en viendrai par ici. J'embarquais dans mon troc, à moi souhaiter good luck. Je l'ai mis en gear, puis j'embarquais sur le highway. J'ai viré des coins puis des croches dans ce vieux troc tout bourré de broches qui hangait des antennes sur les miroirs. Oh, salut CB Boy. Hello Honky Turkey, Shire de ma promenée sur le highway.
And for their teddy bear, I rival Bowling Vagabond.
Shire de ma promenée sur le highway. De vie, de switching on mon vieux CB. C'est rendu que ma job c'est un ennui. Ça fait pas mal d'années que je fais ça. Quand j'ai commencé, je m'en souviens pas. J'ai halé toutes sortes de stuff jusqu'aux états. Salut CB Boy. Hello Honky Turkey. Shire de ma promenée sur le highway.
And for their teddy bear, I rival Bowling Vagabond.
Shire de ma promenée sur le highway. J'achèterai un morceau de terre, banqué sur le bord de la mer. Puis je traiterai mon gros troc pour un bateau. Je démancherai mon vieux CB, puis mes miroirs, puis mes broches aussi. Puis j'installerai tout ça sur mon vaisseau. Puis un jour quand je flotterai sur l'eau, puis je switcherai en ma radio pour saluer mes chums dans leur convoy. Je leur parlerai de vivre en plein air, de pêcher des heures sur la grand-mère. Après du drama, du hana, puis du chicken, du macro. Salut CB Boy, hello Honky Turkey, Shire de ma promenée sur le highway.
and for their teddy bear, rival born vagabond.
Sire the Waffle Nation Highway. Eh ben, mon morceau de terre, au moins je l'ai loué. Puis mon gros truck, ouais, je l'ai tradé. À ce temps, je m'installe dans mon bateau et je switch en mon vieux radio. Puis je fais des romans, t'as la petite chiquette du Naco. Salut, CB Boy. Hello, Honky Turkey. Sire the Waffle Nation Highway.
And for their daddy bear, I'm rival born vagabond.
Sire the Waffle Nation Highway. Salut CB Buddy. Hello Honk Turkey. Sire the Waffle Nation Highway.